On a un héritage qui est en fait infini, parce que ce sont des arborescences de souvenirs qui ne sont pas les mêmes chez chacun, parce que les places ne sont pas les mêmes.
Et l'Église n'apporte pas des choses d'ailleurs contradictoires, mais il y a un petit plus. Et alors là, sincèrement, on ne peut pas l'acheter dans une pharmacie.
Je suis entraînée par un ancien écuyer du cadre noir qui me dit toujours « Mais c'est le cheval qui doit briller, c'est pas toi. Toi, t'es là pour lui montrer ce que tu dois faire, mais ce que tu montres au juge, c'est ton cheval. »
On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien.
Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence? Vous pouvez rester assis à rien faire devant un écran.
Supporter cette crise sanitaire, subir les conséquences des contraintes liées à cette épidémie, par exemple porter le masque, faire des tests, encore des tests, ne plus se retrouver exactement comme avant à 100, à 1000, à 10 000. Sommes-nous depuis 2 ans ceux qui se résignent ou ceux qui acceptent ce qui s'impose à nous? En se résignant, le malheureux consomme son malheur, alerte Balzac dans son César Birotteau. Se résigner ou bien accepter? Allons voir ce que nous dit le Larousse. Accepter sans protestation ni révolte, quelque chose de pénible, de fâcheux, qui paraît inéluctable, s'incliner. Il faut se résigner, c'est la vie, nous apprend le Larousse, pour donc la définition de se résigner. En revanche, accepter, c'est quoi? Consentir à comprendre, consentir à prendre quelque chose, à recevoir ce qui est offert. Il faut accepter son âge avec ses avantages formidables de sagesse, de douceur, de sérénité. Il faut bien accepter la mort aussi, affirmait par exemple il y a quelques années Brigitte Bardot. Alors voilà, comment faire la différence entre accepter et se résigner devant ce qui nous arrive? Marie-Ange Enquête de Sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir dans ce studio, eh bien, Mathias Malzieu. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Alors, comment vous présente-t-on? Vous êtes l'auteur de « Guerrier de porcelaine », ce dernier ouvrage, ce roman chez Albin Michel, qui raconte finalement, pas votre enfance, mais celle de votre papa.
Tout à fait.
Qui est un héros à sa façon, finalement.
Oui, enfin, justement, le papa... C'est toujours un héros quelque part, donc j'avais envie de le célébrer. Et lui, c'est vrai qu'il a eu un parcours assez particulier, car tout petit, il a perdu sa maman en couche, et c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a dû, car son père était résistant, il n'y avait plus personne pour s'occuper de lui, donc il a dû traverser la ligne de démarcation cachée dans une charrette de foin pour retrouver la grand-mère qui était dans une ferme avec un petit bunker... de l'autre côté de la zone occupée, ouais. Donc il se jetait dans la gueule du loup.
Mais oui.
Mais c'était la seule manière qu'il avait pour que quelqu'un s'occupe de lui. Donc il a commencé comme ça. Donc forcément, c'est une histoire qui moi que j'ai toujours entendue comme une espèce de légende urbaine familiale, ce qui m'a toujours plus ou moins raconté. Puis il y avait la lettre de sa maman, puis j'avais les photos de la grand-mère, etc. Et puis un jour, j'ai eu envie et besoin qu'il me la raconte un peu plus et de rentrer dans sa peau et dans ses pas pour en faire un roman, car j'ai quand même inventé aussi certaines choses.
Héros de père en fils, peut-on dire? En tout cas, vous avez vécu vous-même une longue période de maladie, une maladie gravissime, qui s'est terminée par une greffe. Heureusement, vous en êtes sorti.
Oui,
mais c'est aussi pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Oui. Justement, Mathias Malzieu, ça faisait l'objet d'ailleurs d'un livre qui est sorti en 2016, Journal d'un vampire en pyjama.
Oui.
Et en face de vous, Bernard Clazan. Bonjour père.
Bonjour.
Toujours prêtre à Boulogne, professeur de philosophie, d'anthropologie à l'Institut catholique de Paris et directeur du Centre pour l'intelligence de la foi. Alors, c'est vrai qu'on a une langue assez riche, assez précise. Et parfois, on prend l'un pour l'autre, alors que c'est finalement complètement opposé, différent. Qu'est-ce que vous diriez entre accepter et se résigner? Il n'y a qu'un pas ou il y a une longue, 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 longue rivière?
Il y a vraiment un abîme.
Il y a un abîme.
Et le meilleur contre-pied de se résigner, c'est consentir. En effet, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre introduction. Le consentement n'a rien à voir avec la résignation. La
consentir.
Résignation est du passif.
Ouais.
Supporter pourrait aller bien aussi, hein, parce que supporter, c'est de l'actif. Il suffit de regarder les supporters de football, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. C'est quand même de l'action. C'est pas passif,
ouais.
c'est pas du pathos, quoi. Enfin, précisément, enfin, bon, on peut jouer sur les mots.
Ouais.
Mais le mieux, c'est vraiment consentir, c'est-à-dire avec une espèce de j'y consens, de résolution positive, de faire avec. Et faire avec, c'est pas le truc désespéré en disant qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien.
Ouais.
Si je fais avec, c'est que j'y peux. Et je fais avec. Je fais pas sans. C'est-à-dire, je ne nie pas ce qui m'arrive.
Pas.
Et je fais avec. Voilà, c'est beaucoup faire plus positif, avec... actif que passif.
Vous vous y retrouvez là-dedans, justement.
Exactement, ça me paraît tout à fait précis. Merci beaucoup.
Alors pardonnez-moi de faire toujours des ponts entre ces deux ouvrages qui sont vos deux parties de votre vie, celle de votre père que vous racontez là, de façon d'ailleurs presque enfantine. Hein, on sent que c'est un enfant qui écrit ce livre, c'est assez étonnant, bravo.
C'est le cas, oui, je voulais vraiment
me mettre dans le personnage.
Dans sa voix, j'ai décidé vraiment d'accepter cette idée qu'il écrive à sa mère. Alors, attendez, je vais tousser. J'ai été testé hier, il n'y a pas de problème. Mais j'ai une petite toux d'irritation. Mais oui, je trouvais que ça donnait une immédiateté plus forte. J'avais commencé, en fait, à la troisième personne et au passé. Et donc, ça racontait, ça posait l'histoire un peu comme un conte, mais ça mettait un filtre. Alors que, quand j'étais avec le personnage, au présent et avec une voix... d'un enfant de 9 ans, alors d'un enfant de 9 ans dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, quand j'ai relu quand même le journal d'Anne Frank, à 13 ans, elle écrit comme une adulte. Mais j'ai quand même, à 9 ans, j'ai un peu abîmé la langue légèrement, je l'ai un peu déstylisé sur certains moments. J'étais comme dans une caméra embarquée dans un film, quoi. J'étais vraiment avec mon personnage au maximum. Et j'ai eu envie de faire ça.
Finalement, vous êtes un résistant, vous aussi. Vous avez résisté il y a quelques années contre cette forme de résignation qu'on peut vivre quand on est malade.
J'ai beaucoup aimé votre description.
Alors
parce que elle est exactement ce dont on a besoin en ce moment, à mon avis. C'est-à-dire, elle est nuancée. Elle est nuancée et précise. On est dans un moment, justement, qui est difficile... avec le Covid, parce que il y a très peu de nuances. Il y a beaucoup d'emporte-pièces les gens confondent justement se résigner et accepter. Et ils croient que parce qu'ils acceptent, certains, ils se résignent. Du coup, ils s'indignent. Et c'est une bonne chose de mouvement, l'indignation, quand elle est dans une juste nuance et dans une juste précision. Mais quand ça peut devenir un confort idéologique aussi, de se résigner, et ben de râler tout le temps, parce que ça ne fabrique rien. Et ça n'aide ni soi, ni les autres, ça ne fait pas circuler ni la beauté possible, ni la communication possible, ça ne fait que tendre les choses et les faire pourrir. Et donc c'est une énorme différence, parce que ça ne fait plaisir à personne. Quand, par exemple, sans aller directement sur le sujet du vaccin, quand les anti-vaccins disent « Ah, moi, j'ai entendu dire « Ah, mais vous êtes pro-vax !» Je fais « Mais non, moi, je m'en fous du vaccin. Je veux dire, j'ai pas envie de me vacciner. Je suis pas là pour défendre le vaccin. Je suis là pour me dire « Bon, alors, dans les statistiques, il y en a tant qui sont à l'hôpital. Moi, justement, qui ai été
hospitalisé
et sauvé par ces gens qui travaillent comme des dingues, autant techniquement qu'émotionnellement, et ben ils doivent. Je sais aussi, par exemple, moi, j'ai été transfusé 150 fois. Je sais, par exemple, qu'il manque de sang en ce moment. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas le temps. Donc il y a des dommages collatéraux du Covid. Là, on voit que la surface. Eh oui, mais c'est qu'un rhume. Ah oui, mais c'est machin. Mais oui, mais il faut se vacciner alors qu'on n'a pas le droit. Et en fait, ça manque de nuances. On peut ne pas avoir envie, on peut avoir peur. Je comprends tout ça. Je ne brocarde absolument pas les non-vaccinés. Je serai un soignant. Il y a un non-vacciné qui vient, je le soignerai de toutes mes forces. Mais par contre, les gens qui sont, pour le coup, un petit peu militants et qui donnent une mauvaise information, je trouve qu'ils sont dans un confort d'indignation et qu'ils ne répondent pas à la nuance et à la précision de votre définition de tout à l'heure.
Père Bernard Clazane, pourquoi est-ce qu'on s'indigne ? Pourquoi cette espèce de manque de nuance quand on, j'aime bien parler d'indignation un peu médiocre, je ne sais pas, confortable, pardon. Excusez-moi, c'est encore mieux.
Moi aussi, oui, c'est le fait de s'installer dans l'indignation. Moi, j'ai détesté ce petit livre qui s'appelle « Indignez-vous », parce que ça ne suffit pas de s'indigner.
Voilà. Ça ne suffit pas.
Ça mène à rien, c'est ça ?
Non, évidemment, ça ne mène à rien. Et alors pire, je pense que, pour reprendre vos exemples, je pense qu'il y a une manière de s'indigner qui est en effet une sorte de petit vernis mondain qui en fait consiste à cultiver l'amertume, à gratter ses plaies, à sans cesse entretenir la colère, c'est-à-dire à se pourrir la vie. Et les gens, du matin au soir, se pourrissent la vie. C'est-à-dire, le matin, ils se lèvent, ils allument leur ordi pour savoir combien il y a de militants contre, combien il y a de militants pour traiter d'abruti le dernier toubib qui a parlé. Et le soir, ils continuent avec leurs copains autour d'une table. C'est-à-dire, ils se pourrissent la vie, en fait, à soi-disant s'indigner. Ils seraient quand même
pourquoi
beaucoup...
Pourquoi font-on ça?
Parce qu'on se prend pour quelqu'un. Alors que quand vous cherchez les petits détails lumineux dans votre existence, vous ne vous prenez pas pour un héros. Vous cherchez les tout petits machins qui peuvent vous sauver. Alors que quand vous gueulez avec les loups, vous passez pour un militant. Pour quelqu'un qui sait s'engager, qui a des opinions. Enfin, vous êtes que dalle, quoi. Vous êtes juste indigné. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui cultive l'art de pourrir la vie. Alors on peut s'indigner, hein. On peut s'indigner, on peut être contre.
On a le droit, oui, tout à fait.
Ça, aucun problème. Mais il faut apprendre à positiver, c'est pas juste comme terme. Il faut apprendre à capter les lucioles de notre existence.
Les lucioles de notre existence.
Mais il y en a plein.
Je vais te demander, à ce moment-là précis, Mathias Malzieu, quand on est allongé le nez contre un plafond blanc, toujours le même pendant des mois et des mois, qu'on sait qu'on peut mourir demain, tout à l'heure, c'est quoi le moteur à ce moment-là?
C'est les lucioles dont vous parlez, monsieur. Très bien. Père, je dois dire. Je ne sais pas comment on dit, je n'ai pas l'habitude. Mais en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire que même si quand on est dans une chambre d'hôpital avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, les lucioles dont vous parlez brillent moins fort et se raréfient. Et il y en a toujours. Même dans un ciel nuageux de nuit, il y a toujours une lueur de lune, il y a un truc à attraper. Donc, en fait, c'est un rapport poétique à la vie. Mais je dirais que quand c'est un rapport poétique à la vie, je mettrais la même réserve que quand tout à l'heure vous disiez positif. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être positif, il ne suffit pas d'être poétique. C'est juste qu'en fait, il faut être en recherche. Je ne sais plus quel philosophe disait que le... Je sais pas si c'est pas Camus, qui disait le plus grand courage, c'est d'être de bonne humeur tous les jours.
C'est joli, ça.
Et en fait, oui, c'est plus courageux, en fait, parce qu'il y a des fois, on n'a pas envie, des fois, on est fatigué, des fois, on a des mauvaises nouvelles, on est des êtres humains, on est traversés. Mais du coup, après, il y a des choix, des chemins à emprunter. Ce poète génial, Robert Frost, un poète qui avait fait un poème là-dessus sur où il y avait deux routes toujours à choisir, et puis il y avait la contre-allée. La contre-allée, il y avait des surprises dedans, des fois des mauvaises, mais au moins on était vraiment en vie. On pouvait suivre son propre chemin. Et je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à cette façon d'être en vie et d'être à la vie. Alors, ça ne garantit rien. C'est-à-dire que, par exemple, je disais à mon médecin extraordinaire, je disais, vous m'avez quand même sauvé la vie. Et il me dit non. Il me dit non, je vous ai donné les outils pour que vous puissiez vous sauver. Parce que sinon, je sauverais tous mes patients. Il y a aussi un facteur chance. Mais en fait, je vous ai donné, je me suis avec mon équipe technique, on s'est débrouillé pour que vous ayez les bons outils pour travailler. Et vous avez pris les outils, vous avez travaillé.
Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est les lucioles.
Cette version des choses, cette vision des choses, Père Cazan.
C'est un consentement formidable, pour le coup, très très positif. C'est-à-dire, on consent bien qu'il est possible.
Il y a une histoire de confiance là-dedans aussi, ou pas?
Oui.
Évidemment.
Confiance, avoir foi en.
Ouais.
Oui.
Alors, quand on a Dieu, nous, on est sur Radio Notre-Dame dans Quête de Sens. Évidemment, la question pas au nez, évidemment, Mathias Malzieu, dans quelques instants, vous n'allez pas y couper.
Il y a
Dieu là-dedans. Mais cette fameuse confiance dont on, à laquelle on aspire quand même tous, plus ou moins, qu'est-ce qui manque à certains plus qu'à d'autres pour y accéder? C'est un travail, la confiance, Père Cazan.
Oui. Je crois qu'il y a quelque chose de vertueux dans la confiance. Alors une vertu, Saint Thomas d'Aquin limite un peu la vertu. Il pense que c'est inné. Hein. Il dit que c'est inné. Alors moi, j'équipe...
Il dit que c'est inné, la vertu.
Ouais.
Ouais.
Alors moi, je dis que non. Que oui, mais que non. Mais que non surtout. C'est-à-dire que j'éclaire la vertu de Saint Thomas par Saint Thomas d'Aquin lui-même, qui lui parle de l'habitus. L'habitus, c'est l'art de s'entraîner pour que ça finisse par vous habiter.
Ouais.
Et en fait, la confiance, c'est ça. C'est-à-dire, on a tous un petit fond de foi, de confiance. On aimerait être confiant, enfin tous, quoi.
Ouais.
On préfère être confiant que...
À moins d'être vraiment très maso, mais ouais, on est d'accord.
Donc on a tous un petit, on est fait quelque chose d'inné. Mais il faut le travailler, il faut le cultiver. Et pour le travailler, il n'y a pas à tortiller. C'est comme le sport. Il faut s'entraîner. Et donc, il faut s'entraîner tous les jours à nourrir cette confiance.
À ne pas avoir peur, au fond, Mathias. Est-ce que c'est ça, la clé? Mais c'est dur de dire ne pas avoir peur.
Je ne crois pas du tout.
Non. Alors,
je crois pas du tout.
Moi non plus.
Je pense que la peur est un système d'alarme. Et que débrancher le système d'alarme est à peu près aussi peu courageux que de ne pas avoir de nuance et de s'indigner tout le temps. C'est presque la même mécanique. En fait, il faut avoir le vrai courage, c'est ne pas avoir peur. C'est d'intégrer la peur et de lutter contre et de parvenir à ne pas se paralyser. C'est une nuance, à mon avis, qui est très importante. Après les attentats terribles de 2015... Il y avait ce slogan qui partait d'une très bonne intention, même pas peur, terroriste, même pas peur. Et ça partait d'un encouragement, donc je me dis, j'étais pas du tout agacé par ce slogan. Je voyais le cœur qui mettait et l'envie de répondre par la vie à ces pulsions de mort. Mais je pense qu'il était tout à fait faux, ce slogan. Et que oui, il faut avoir peur. Et il faut faire avec, encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure, il faut faire avec et essayer de se débrouiller avec cette nouvelle donne pour continuer la possibilité de la joie. On est encore sur vos lucioles, à mon avis.
On est encore sur vos lucioles. C'est un peu ce qui se passe pour ce petit guerrier de porcelaine, au fond.
Oui.
Puisqu'il a la trouille, il se rend très bien compte que à chaque frontière, à chaque Allemand croisé sur ces chemins cabossés, on demande un Ausweis, quelque chose qui prouve que tout va bien. Le cœur bat la chamade, il se passe des choses dans le cœur de ce petit marmot, au fond.
Ah oui, bien sûr, et c'est pour ça que ça faisait un écho terrible pour moi, parce que justement, en fait, moi, il y avait un espèce d'ordre des choses qui était complètement inversé au début de mon hospitalisation, quand mon papa venait me visiter. C'était trop dur en fait, parce que donc on a perdu ma mère il y a maintenant 18 ans. Donc lui, il a perdu sa mère très jeune, il a perdu sa femme très jeune, et là il avait peur de perdre son fils qui en plus lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et voilà, donc il y avait un truc, ce qui fait qu'on parlait de football, ça parlait de la Coupe du Monde 2014.
Ouais.
Et moi, je lui faisais parler de son enfance par rapport à ce souvenir qu'il a souvent raconté. Il y avait une lettre de sa mère qu'elle avait écrite juste avant de mourir en couche, où elle parlait qu'elle s'occupait de lui, qu'il avait plus de fièvre, qu'elle était contente. Il y avait toute cette petite mythologie là. Et là, je lui ai demandé, et du coup, en fait, ça changeait un peu le paradigme. Et il y avait comme une espèce de joie nostalgique, et on se plongeait dans un autre temps, et on était moins dans la réalité de la chambre d'hôpital et de la énième transfusion que j'allais devoir, j'allais pas dire subir, mais bénéficier, parce que ça m'a sauvé la vie quand même.
Ouais.
Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. C'est comme ça que c'est parti. Et donc ça faisait écho à la fois à moi, mon immobilité forcée, parce que lui, il était donc souvent dans le bunker, et puis il pouvait pas sortir, et puis il avait plus de maman, et puis il savait pas si son papa allait revenir. Donc il y avait beaucoup de choses à intégrer émotionnellement. Et puis en plus, je l'ai écrit ce livre. J'ai commencé à l'écrire à l'époque, puis j'ai eu besoin de le laisser un peu reposer parce qu'il y avait beaucoup d'équilibre à trouver entre le contexte historique, son souvenir, le souvenir de son souvenir, ce que j'en faisais, comment je l'incarnais moi, les choses que j'ai inventées pour le transformer en roman et pour lui donner une dynamique. Il y a des choses comme ça qu'il faut laisser reposer. Et c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, je l'ai repris pendant le confinement. Quand à nouveau, j'étais enfermé.
Être rassuré, les lucioles de la vie, Mathias Malzieux et Bernard Clazen, le père Bernard Clazen, sont ici présents pour parler de la différence à faire entre accepter et se résigner. C'est pas très bien dit, mais vous l'aurez bien compris. On se retrouve juste après cette petite page en couleur, à tout de suite. Comment faire la différence entre accepter et se résigner devant ce qui nous arrive, au fond? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui en compagnie de père Bernard Clazen, prêtre à Boulogne, prof de philosophie et d'anthropologie à la Cato de Paris, directeur du Centre pour l'intelligence de la foi. Et Mathias Malzieux est également avec nous, chanteur du groupe Dionysos, auteur de Guerrier de porcelaine, son dernier roman chez Albin Michel. Roman qui est un peu une tranche de vie, peut-on dire, de son propre père. Vous nous parliez, effectivement, il y a quelques instants, nous parlions ensemble de la peur, de la confiance. Vous parlez beaucoup dans votre livre, Mathias, du fait d'être rassuré. On sent que plus Les femmes qui sont autour de vous dans ce trajet, autour de vous, oui, j'ai envie de dire vous.
Oui, parce que oui, je me suis glissé dans ses pas et dans ses mots.
Plus elle cherche à rassurer l'enfant qui est votre, qui était votre père dans cette botte de foin, dans cette charrette. Plus il est effrayé en fait. Lui, il se rassure avec, vous dites, ce défilé de poteaux électriques et de.
Ouais, contre les poteaux télégraphiques.
Contre les poteaux télégraphiques, pardonnez-moi. Ouais. Et c'est intéressant juste de passer par cette. Le fait d'être rassuré par Bernard Clézet, d'avoir besoin d'être tout le temps rassuré. Mmh. On croit qu'il faut rassurer l'autre, peut-être pour se rassurer soi-même, mais en fait, l'autre est effrayé devant ce.
Ah bah, moi, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai pris de ma propre expérience. C'est-à-dire que quand j'avais l'impression d'être. Un enfant à qui on faisait tourner un mobile à oiseaux et des petites musiques douces pour le rassurer. Pour moi, ça voulait dire que c'était dangereux, quoi. Dire quand on parlait tout doucement, non mais la grève de moelle osseuse, non mais on va vous faire. Je me rappelle la première fois qu'on m'a fait un examen de la moelle osseuse, qui est une espèce d'acte de barbarie totale où on a une espèce de stylo bic là qui vous traverse le sternum et on vous envoie une carotte d'os. Et après, on la découpe comme ça sur une plaque, comme si c'était des radis. C'est absolument terrible. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. C'est un truc. Et je me rappelle du mot « on va vous faire un geste qui était peut-être un petit peu invasif. »
Invasif, ouais.
Et qui peut être un peu désagréable.
D'accord.
Alors, c'est un euphémisme, mais alors, c'est... Il y a l'œuf, il y a la poule de l'euphémisme, il y a tout, quoi. C'est le truc, j'ai, en termes de douleur. Après, on m'a dit... Entre 0 et 10, votre douleur, j'ai envie de dire 24. C'est vraiment, c'est très très douloureux parce qu'on ne peut pas faire d'anesthésie. Parce que l'anesthésie peut du coup fausser le résultat.
On ne peut pas anesthésier.
Donc c'est vraiment... ça fait pas mal longtemps. C'est-à-dire quand ça s'arrête, c'est fini. C'est-à-dire, on ne continue pas d'avoir mal.
Ouais.
Mais sur le moment, en fait, ça vous attrape un truc. Et après, on arrache, donc on a l'impression que les poumons viennent avec. C'est absolument terrible. Et là, on m'a beaucoup rassuré. Et je leur en veux pas, c'est adorable de leur part. Ils n'allaient pas dire tu vas voir, tu vas prendre cher, hein. Ça aurait été encore pire. Mais disons que je sentais que quand on me parlait un peu trop gentiment, c'était pas forcément
alerte
bon
rouge,
signe.
Hein. Ouais.
Et du coup, j'ai transposé ça au personnage de mon papa quand il était petit, parce que je lui ai quand même inventé ses émotions. Je suis parti sur ses souvenirs, mais ensuite, j'ai fait comme un acteur dans un film, quoi. Il y a un scénario, et puis ensuite, il faut interpréter. Pour interpréter, il faut mettre son propre cœur.
Bah,
évidemment. J'aurais pas pu le faire autrement.
Père Clézet, effectivement, dans une société que vous avez déjà décrite à plusieurs reprises d'infantilisante, c'est une façon aussi d'infantiliser, de rassurer l'autre pour qu'il l'accepte mieux, qu'il avale la pilule un peu mieux.
Alors, puisque vous parlez de l'enfance, je pense qu'il y a une vertu d'enfance dans l'art de consoler. Consoler, rassurer, vous voyez, c'est... ça m'a toujours, moi, paru mystérieux, la manière dont des parents arrivent à consoler leurs enfants. La consolation, oui, c'est pas tout à fait rassurer, parce que dans le fait de vouloir rassurer,
oui.
C'est la limite du mensonge.
Ouais.
Mm-hmm. C'est, alors que consoler, non. Consoler, il y a quelque chose comme
le
la compassion.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a une espèce de mystère quand même, de communion dans la consolation, qui va beaucoup plus loin que le fait de vouloir rassurer.
Ouais.
Et ça m'a toujours fasciné, ça. Alors je trouve que les parents sont hyper doués. Ça, il y a une espèce de qualité. Les parents apprennent la consolation, ce que moi, je ne sais pas faire. Quoi. Enfin, pas aussi bien que...
Faut-il s'entraîner, hein. C'est vrai que ça vous, je sais pas ce que ça vous inspire,
bien
Mathias,
sûr,
la consolation.
Complètement, mais c'est complètement ça. Et c'est un geste, la consolation, qui est beaucoup plus gratuit.
Ouais.
C'est-à-dire que rassurer, des fois, même si ça part d'une bonne intention, c'est pour se rassurer aussi soi.
Ouais.
Quand on veut rassurer l'autre, on rassure. Et c'est très bien, je suis pas en train de condamner le fait de faire ça. Mais la consolation, c'est juste, en fait, pour l'autre. Et c'est, on est encore dans la question d'acceptation. Il y a quelque chose qui s'est peut-être mal passé ou qui a été douloureux. Et ben, on console. Mmh. On n'est même pas là pour rassurer, on console. Donc, c'est plus généreux, en fait.
Mmh.
Encore.
Mmh.
En tout cas, c'est plus juste quand il y a une vraie douleur. Et je crois que moi, en tout cas, par rapport à votre question très juste, j'ai plus besoin, encore en tant qu'adulte, hein, peut-être, parce que mon enfant intérieur est en très bonne santé, j'ai plus besoin d'être... consolé, j'ai besoin d'être rassuré mais j'ai besoin d'être consolé. J'ai des souvenirs d'enfance, effectivement, de ma mère, qui était très, 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 très douée pour consoler.
C'est peut-être qu'il vous a aidé à tenir, d'ailleurs, pendant ces mois affreux d'hospitalisation. D'une certaine façon, notamment, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, évidemment, mais...
Comment ça ?
Ben, le fait de ces souvenirs tendres, en fait,
de consolation. C'est des repères.
Finalement.
C'est des repères et c'est de l'éducation.
Faut-il s'entraîner à se souvenir ou s'entraîner à oublier ? Peut-être. Ça, c'est intéressant de l'évoquer dans notre sujet du jour qui, je le rappelle, pose la question comment faire la différence entre accepter et se résigner devant ce qui nous arrive. Il y a aussi une affaire de mémoire là-dedans, c'est-à-dire les personnes qui cumulent une série de frustrations qu'ils aimeraient bien voir nourries par une réponse et la réponse ne vient pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On oublie ? On se révolte ? On fait quoi ?
Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices spirituels, a clairement, dans la première semaine, a clairement choisi l'option de se souvenir. C'est-à-dire, j'entraîne beaucoup les gens à cet exercice, c'est-à-dire, il faut regarder sa vie. Vous passez une journée, elle passe une journée éclair, quoi. Si le soir, vous vous assommez sur Internet ou sur la télé et que vous dormez après, vous avez perdu votre journée. Elle est perdue. Il faut la garder. Ouais. Pour la garder, il faut la regarder. Et donc, il faut faire une espèce de retour en arrière.
Qu'ai-je fait ?
Voilà. Qui ai-je rencontré ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce positiver, là aussi là. C'est-à-dire essayer de voir qu'est-ce que j'ai pu apporter aux autres ? Qu'est-ce que les autres m'ont apporté ?
Ouais.
Quels sont les gains, les... parcelles de joie, les lucioles.
Qu'est-ce que j'ai appris aussi ?
Regarder sa vie. Ouais. Et du coup, on la garde. Elle n'est pas perdue. Et du coup, elle s'embellit, elle s'enrichit.
Ouais.
Et donc, ça, c'est un véritable exercice spirituel qui ne va pas changer le malheur en bonheur, bon, mais qui va permettre de vivre en plénitude les choses et non pas de perdre sa vie. On n'oublie pas sa vie, on la perd.
Mathias,
il y a un exercice technique
qui
répond à ça. C'est écrire.
Ah, ça vous a
sauvé. Son journal intime. C'est-à-dire que je ne parle même pas là du roman, mais par rapport à ce que...
Vous écriviez tous les jours, je crois.
Oui.
À l'hôpital. Mmh.
Et en fait, c'était un journal intime. Parce que justement, il n'y a pas... j'aurais pu être résilient, justement, en m'inventant un monde imaginaire. Je l'ai beaucoup fait sur d'autres livres. Et c'est une autre forme de résilience. Mais là, même à l'hôpital et avec le peu de lucioles dont je disposais, eh bien, le fait d'écrire tous les jours, pas écrire pour me plaindre, parce que tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un problème de victimisation.
Ouais.
Et moi, le fait de continuer d'écrire, c'était pas pour me plaindre, c'était pour rester moi-même. On est sur la question de l'identité, qui pour moi était l'exact opposé de l'identitarisme. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu un malade. J'étais malade, mais j'étais moi. J'étais pas juste un bracelet avec un code barre et qui subit la télé ou
un
Internet,
fantôme,
comme vous disiez. Et après, s'il y en a qui ont envie de lâcher et qui regardent la télé toute la journée et qui guérissent, eh ben bravo. Y a pas, c'est pas à moi de dire il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Je n'en sais rien pour les autres. Mais pour moi, en tout cas, je sais que c'est exactement ce que vous racontez et je continue de le faire.
Vous écrivez encore ?
C'est-à-dire que ça m'arrive aussi de regarder un peu n'importe quoi sur Internet, comme tout le monde. Mais j'aime au moins écrire un haïku par jour. Et en fait, même si c'est pas longtemps,
donc
c'est
un toujours haïku un truc... qui est pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas.
C'est un poème japonais de 17
court.
Syllabes.
Voilà.
Ça doit être 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Donc c'est un jeu de l'esprit.
Ouais.
Et qui est souvent, traditionnellement, tourné vers vraiment la nature. Mais on fait exactement ce qu'on veut quand même. Et du coup, moi, c'est le résumé de ma journée. Et en fait, je dois le résumer... Comme avec une petite formule, avec quelque chose. Et en fait, ça me permet, en fait, de, je crois en tout cas, pas perdre ma vie, comme vous disiez.
Il est presque prêt pour la vie monastique, ce garçon.
qu'est-ce que c'est qu'écrivain ? Les moments d'écrivain, si ce n'est un moment, c'est
d'ermitage.
Un moment monastique.
Ouais.
Évidemment que c'est un moment monastique. Que ça soit dans une cabane dans les bois, ou que ça soit juste dans le flot. Mais le moment où on écrit. En fait, c'est une manière de rentrer en soi.
Ouais.
C'est alors peu importe ce que chacun. Non, pas peu importe, mais en tout cas par rapport à la question, ce à quoi on croit et ce qui, j'ai envie de nous dire, nous guide sur le chemin et qui nous donne le désir, nous donne l'envie de faire et l'envie d'être. Mais évidemment qu'il y a des points communs.
Dans le fait de se résigner, quelque chose qui est relativement d'actualité, la preuve c'est que j'ai eu l'idée de pondre cette question pour animer cette émission, Père Bernard Clazen, c'est que la peur de la mort au bout ou pas? Est-ce que c'est le rapport à la mort qui détermine un peu aujourd'hui cette espèce de propension que nous avons à nous résigner beaucoup plus visiblement que ce qu'ont vécu nos anciens?
Je ne sais pas si c'est une peur de la mort, parce qu'elle est souvent escamotée, la peur de la mort et la mort tout court. Oui. En tout cas, c'est morbide.
Oui.
Voilà, c'est ça.
C'est morbide.
Oui, c'est-à-dire ça entraîne la mort.
Se résigner.
Alors que consentir, ça entraîne la vie. Encore une fois, consentir, c'est faire avec. Se résigner, c'est abandonner, on ne fait plus rien.
Mais si on consent avec, c'est qu'on sait qu'au bout, il y a quelque chose, c'est ça ma question.
Alors,
pas forcément.
Oui, pas forcément. C'est-à-dire, en effet, il peut y avoir tout simplement une question de mon être singulier.
Ouais.
Je ne veux pas qu'il soit en perdition. Je ne veux pas me perdre. Et donc, je...
Me diluer dans n'importe quoi.
Oui, ou dans le fait de se résigner, c'est abandonner ce que je suis dans une espèce de... Comment dire de, C'est les événements qui vont me composer.
Ouais.
Alors que... consentir, ça veut dire je vais rester moi-même avec les éléments, ils vont m'enrichir.
Je garde les rênes au fond, c'est un peu ça, de ma vie un petit peu.
Je ne garde pas les rênes, mais j'y consens, c'est-à-dire ça me grandit.
Ouais.
Ça, je vais en profiter, enfin, tous ces mots, vous voyez, sont un peu piégés.
Ouais. C'est compliqué, on sent que le fil est quand même vachement ténu, Mathias, entre garder une forme de contrôle, mais c'est atroce, là aussi, mauvais mot, mais de garder... de l'activité, de l'action, du moteur, et en même temps, consentir avec ce qui nous tombe dessus, ce qui nous arrive en tout cas.
Ouais.
On sent que c'est là où se trouve le nœud de la guerre.
Ce qui nous arrive est une belle expression.
Ce qui nous arrive.
Ouais.
Mathias.
Je crois très fort au désir. C'est Jacques Brel qui disait « le talent, c'est le désir ». Le gars qui se lève le matin et qui veut pêcher un homard, il se lève, il prend sa barque, il se lève tôt, il prépare son matériel, et puis des fois, il n'y arrive pas, s'il n'arrive pas, il recommence. Et puis, au bout d'un moment, il a son homard, donc il a du talent, parce qu'il a eu du désir. Et malgré ce qui nous arrive, et on recommence, et on a l'humilité, si on n'y arrive pas, alors c'est encore un exemple de l'écriture, parce que, à mon humble niveau, sur un livre de 250 pages, j'en jette 150. Et dans les 150, il y en a qui ne sont juste pas bonnes, mais il y en a que j'aime, mais que j'enlève parce qu'elles ne sont pas bien pour le livre. Donc en fait, c'est le travail, vous disiez tout à l'heure, qu'on doit s'entraîner. En fait, toute notre vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que les génies, bien sûr, car on n'est pas tous égaux devant les facilités par rapport à faire des choses, mais quand même, les grands génies sont ce qu'on considère comme des génies, sont des travailleurs.
Ouais.
Et ils travaillent leur art, mais ils travaillent leur humanité, leur âme, on appelle ça comme on veut. Mais toutes les choses de nuance et de précision qu'on aborde depuis le... C'est des gens qui travaillent ça pour la possibilité de la joie. C'est des gens qui travaillent à ça et qui croient. Et je ne fais pas de mauvais jeu de mots ou par rapport à la question de la religion. C'est, il faut croire, il faut avoir la foi, que ce soit en soi, en un dieu ou en je ne sais quoi. Et c'est là que je dis peu importe sans cynisme. C'est qu'en tout cas... on doit être porté, et je crois que du coup, pour que puisse naître le désir. Et quand on a une recharge de désir, eh ben, ne serait-ce que par exemple quand on est en confiné ou qu'on est un truc comme ça, eh ben, du coup, on a des portes de sortie magiques, un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut avoir du plaisir quand même à lire un livre. On peut se dire, mais moi j'aimerais être dehors parce que je peux pas aller au bar et machin. Eh ben, si tu as encore le désir de lecture ou le désir d'écrire, ou le désir de peindre, ou peu importe, encore une fois, ou de faire du sport, ou je sais pas quoi.
Ouais.
Mais un truc qui vous apporte, il n'y a vraiment évidemment pas de règles. Et bien, du coup, on est mieux armé pour ne pas tomber dans le confort indigné.
Détourne ce qui t'arrive. Magnifique. Poésie, Mathias Malzieux, Père Bernard Clazen. Eh bien, Véronique Sanson est-elle une poète de la vie? Celui qui n'essaie pas, par exemple, va peut-être nous le prouver. Et voilà pour Véronique Sanson, celui qui n'essaie pas, ça n'était pas au top de son art à ce moment-là, vous disiez Mathieu.
Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis.
Vous la préférez maintenant?
Ah, pas du tout. J'aime beaucoup aussi, mais j'ai été un petit peu happé par le fait que c'est que évidemment que sa voix a changé, mais c'est pas qu'elle est devenue moins bonne, au contraire. Mais là, en fait, on sent un peu plus de jeunesse. C'est normal, hein. Moi, quand même à mon humble niveau, quand j'entends ma voix dans le début des années 2000, et si on a un peu plus comme ça, c'est normal. C'est juste le fût de chêne qui prend doucement.
C'est pas avec votre casquette de vieux viticulteur.
La Dionysos, hein, j'y peux rien, j'arrive pas à me refaire.
Ah, bah écoutez, vous avez bien raison. C'est une affaire qui marche, qui roule. Guerre de capricieux, sommes-nous dedans, Bernard Clazen? Guerre de capricieux aujourd'hui, est-ce que c'est un peu ce qui est en train de se passer?
Alors,
nous sommes toujours en train de faire la différence entre accepter et se résigner, je le rappelle, hein, si vous nous rejoignez devant ce qui nous arrive.
Alors, caprice, désir, oui, on était en train de parler du désir. Le désir est un véritable moteur extraordinairement positif. Et le caprice, je pense que c'est l'art de suturer le désir. C'est-à-dire, on accumule un certain nombre de consommations, c'est une espèce de consumérisme de plaisir, de manière à tuer le désir. Le désir est toujours inassouvi. Ouais. C'était cet inassouvissement dont nous, fondamentalement, ils ne veulent pas. Moi, c'est un inassouvissement que, fondamentalement, je veux. c'est parce que je m'y suis résolu.
Oui, pour aller chercher le vrai désir profond qui vous meut.
Pour animer l'existence, quoi. Et donc, j'évite de me saturer de plaisir et de caprice. Parce que ça occupe du temps, ça occupe de l'énergie.
Donc, la télé, les images, le Netflix que vous voulez.
La consommation, le fait de râler du matin au soir, tous ces trucs quoi, qui vous saturent l'existence.
Je subis.
Il faut faire en sorte que le désir nous mobilise, nous attire, nous anime. Quoi. C'est, anime, ça veut dire mettre de l'âme.
Ouais. Intéressant, ça vous parle ça le...
Oui, c'est la question de la place en fait. C'est-à-dire que un ostéopathe, par exemple, quand vous avez par exemple mal au dos, souvent il y a deux os qui sont coincés les uns contre les autres. Et lui, la seule chose qu'il fait mécaniquement, c'est qu'il vous les éloigne un petit peu, donc il crée de l'air, il crée de la place, donc il désature lui aussi. Et je pense qu'il y a une petite, par rapport à ce que vous venez de dire, une ostéopathie émotionnelle de vous le désirez, quand je l'entendais tout à l'heure, c'est pas exigé.
C'est ça.
C'est-à-dire que quand je reprends l'exemple de Brel, il dit pas le gars qui désire et j'ai pas eu mon homard, si je veux pas un homard, je vais aller en acheter un ou je vais en commander un sur Amazon tout de suite et machin. Il y retourne. Et il pleut, il met un ciré.
Ouais.
Et puis il retourne. Et puis s'il a pas aujourd'hui, il garde son désir. Et puis le lendemain, il revient. Mais il ne se frustre pas parce qu'il ne l'a pas eu. Parce que peut-être qu'il sera venu et qu'il aura vu une belle lumière. Peut-être qu'il aura pêché un autre poisson. Peut-être qu'il aura rencontré un autre pêcheur qu'il n'a pas vu depuis longtemps et ça lui fait plaisir. Peut-être que tout simplement, ça lui aura fait du bien de prendre l'air iodé. C'est ça, en fait, la différence. Et là, en fait, on alimente notre désir, mais en laissant la place possible par rapport à ce que vous disiez... Il me semble.
Oui, tout à fait. Pour moi, le désir est toujours inassouvi. Alors évidemment, moi, je suis plutôt, quand je pense à ça, je suis plutôt dans le trip spirituel. C'est-à-dire, pour moi, ultimement, le désir, c'est Dieu. Ouais. Et donc, évidemment, il est inassouvi. Mais je l'aime comme inassouvi. Je ne voudrais surtout pas le saisir.
Puisque c'est celui qui vous fait avancer et progresser.
C'est ça.
C'est ça, en fait, que ça veut dire.
Ouais, ouais.
Là, on touche à des trucs quand même très, 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 très élevés. Hein.
Ouais, élevés ou profonds, en fait. Non, mais... ouais. Dans les deux sens. Ouais.
Et Dieu là-dedans, alors, la question...
Ah ben, je viens d'en parler.
Allez, pour Mathias, cette fois. J'en doute pas une seconde pour vous, Père Bernard Clazen. Mais est-ce qu'il a apparu à un moment donné, dans tout votre parcours, Mathias? Ou dans votre écriture, je ne sais pas.
En fait, moi, j'ai un rapport... Quand je vous entends parler là, par exemple, j'ai envie de croire. Pourquoi je dis ça? Parce que le rapport que vous avez à la foi, oui, là, je dis, en fait, ce cheminement-là, philosophiquement, je m'y retrouve complètement. Après, moi, les autres problématiques que j'ai eues, finalement, je ne suis pas un athée convaincu. C'est-à-dire que je suis en diagnostic.
Oui.
C'est-à-dire que je suis dans l'ouverture dès qu'il y a peut-être quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Et j'ai un petit problème avec la question du dogme et la question de ces sept histoires-là. C'est la Bible ou non ? C'est le Coran ? Non. Celui qui aime le Coran, il dit que la Bible, c'est pas ça. La Torah, le machin, le truc. Mmh. Et en fait, moi, pour l'instant, peut-être que ça changera en vieillissant encore. Mais pour l'instant, je n'ai pas envie de choisir l'histoire. C'est-à-dire que c'est comme, j'ai pas envie de dire, eh ben moi, c'est Baudelaire, hein. Rimbaud, non. Mmh. J'ai encore envie, en fait, d'avoir le champ des possibles ouvert.
Il y a quand même quelque chose qui vous a dépassé, qui vous dépasse et qui vous porte dans ce que vous appeliez dans la famille des Lucioles, au fond. Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, en tout cas, d'un être qui vous dépasse, d'un tout, d'un quelque chose qui...
Oui, parce que je crois en une forme d'énergie. Ouais. Alors, je ne suis pas dans un truc New Age, je ne sais quoi. Parce que, justement, c'est ça qui me... C'est le côté... C'est à partir du moment où ça enferme que ça me pose un problème. Je suis un vrai laïc, au beau sens du terme, il me semble. C'est-à-dire, pour moi, la laïcité... c'est une loi qui est faite pour respecter les cultes aussi. C'est pas du tout une loi anti-religieuse. Ça, c'est instrumentalisé que de penser ça. Et c'est pas, c'est juste, je ne crois pas, respecte-moi. Je crois, respecte-moi et vivons ensemble tranquillement.
Tout ça à cause des dogmes, vers Bernard Clazel.
Et j'aime, ouais, moi, c'est les dogmes, parce que la version, du coup, le risque de la maladie du dogme. C'est l'intégrisme.
Je pense que vous avez prêché un convaincu.
Et c'est ce qui m'a toujours, en fait...
Freiné,
alors que finalement, comme je le disais tout à l'heure avec l'écriture, avec plein de choses, moi, par exemple, si on fait une transposition, tout ce que vous dites depuis le début, et je ne fais vraiment pas de mauvais jeu de mots ou de sarcasme une seule seconde, bah, j'y crois. Ça me parle, ça me touche et ça me fait même du bien de vous écouter. Ça me nourrit. Et du coup, je dis, cette intelligence au service de cette... J'ai envie, comme par exemple, j'aurais un livre que je vais aimer, ben, j'ai envie de savoir l'auteur, pourquoi. Et donc là, du coup, dans votre rapport à Dieu, ça m'intéresse. Mais moi, en l'état actuel des choses, dans mon chemin aujourd'hui, il y a ce truc du dogme qui me crée une résistance.
Ouais.
Après, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, j'en sais rien, on le saura jamais, mais c'est ce que ça me fait. C'est j'ai une limite sur ça.
Ok. Ouais.
Père, qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, je signerais assez volontiers le fait de renoncer, rejeter, c'est pas le mot, mais de renoncer, en tout cas d'avoir une sorte de méfiance à l'encontre des religions qui excluent. Une religion qui exclut, pour moi, c'est il y a déjà quelque chose de faux, quoi. Et deuxièmement, en effet, je consonne aussi à l'idée que le dogmatisme a plus. Alors, je parle de dogmatisme pour le coup, c'est-à-dire de système de doctrine fermé, a plus d'inconvénients que d'avantages. Bon, moi, j'enseigne aussi la philo, la théologie, tout ça. Donc, je pense que les dogmes, le mot dogme, pour moi, est plus faible, plus ouvert que le mot dogmatisme.
Oui, je l'entends. Voilà.
Dogmatisme, c'est étriqué.
C'est ce que je voulais dire, mais vous reprécisez mieux.
Voilà.
Mais c'est son métier, en même temps.
C'est le dogmatisme.
Eh bien, j'en suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec ça. C'est-à-dire, le dogmatisme, pour moi, encore une fois, a beaucoup plus d'inconvénients, notamment ceux que vous signalez, c'est-à-dire le communautarisme, l'exclusion, la haine. Alors, pour moi, dès qu'un dogme, fût-il religieux, va à la haine, il est faux.
Ouais.
Voilà, ça, c'est clair.
Mais c'est un peu ce qui se passe dans notre société, finalement, pour reprendre notre sujet. Vous voyez, finalement, le dogmatisme est un peu partout.
Ah oui, il n'est pas que religieux, bien entendu.
Bien sûr que non.
On s'enferme tous les trucs.
Le nazisme, c'est un dogmatisme.
Eh oui.
Et la résignation, à ce moment-là, effectivement, quand elle est sans arrêt, le contraire du moteur, un espèce de système qui nous empêche d'avancer, voilà, là, pour le coup, on a tout perdu.
Oui, oui.
On n'a rien compris à ce qu'est la vie, finalement, qui mérite toujours d'être vécue, même si certains, en ce moment, on l'entend, nous disent que, finalement, là, c'est la fin de la vie normale, c'est fini, rien n'est plus comme avant. Certes, il y a des choses très pénibles, mais qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui, Mathias ?
Mais vous savez, je crois que ce seront les mêmes qui se plaigneront d'autre chose quand tu auras plus ça. Vous savez, ils ne voulaient pas mettre les masques, après, ils ne voulaient pas se vacciner, après, ils ne voulaient pas se confiner, après, ils ne voulaient pas rentrer à 11h du soir. C'est toujours pareil. Et moi non plus, ça ne me plaît pas. Mais c'est une expérience avec la foule, par exemple. Je me rappelle d'une fois, un festival, un groupe, 30 000 personnes, et y a des barrières avec des gens de la sécurité. Et sur un morceau, je propose à quelques personnes de venir sur scène, parce qu'on a un truc avec un moment un peu festif et tout, je fais venir les gens sur scène. Et du coup, il y en a, j'ai créé un truc de ceux qui ont pu monter, ceux qui n'ont pas pu monter. Parce qu'évidemment, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas faire monter 30 000 personnes, ni même 50. Juste, il y en a eu 4 ou 5 qui sont montés. Et ce que j'ai retiré de cette expérience, c'est que finalement, il y en a qui ont fait le tour et qui sont montés quand même. Et qu'est-ce qu'ils voulaient absolument monter comme les autres. Et ceux-là, une fois qu'ils sont montés sur scène, ils n'ont pas bougé. C'est-à-dire que c'était, ils voulaient absolument le truc qu'on leur avait ils voulaient absolument
transgresser, en fait.
Transgresser, ouais, ou c'est même pas transgresser, c'est un caprice, on est dans ce qu'on disait tout à l'heure. Alors que, et une fois qu'ils étaient sur scène, ben en fait, ils n'avaient rien à y faire. Alors que ceux qui étaient allés spontanément à ma demande, dans le truc, et qui étaient les premiers, et ben finalement, il y en a qui étaient un peu timides, il y en a qui étaient maladroits, il y en a qui étaient explosifs, il y en a qui étaient démonstratifs, mais ils étaient dans une joie simple. Alors que ceux qui ont contourné le truc, bon, machin truc, ben en fait, soit ils ont été impolis, genre ils se sont mis devant le micro, ils ont fait tomber des trucs, soit, pour parler un peu vulgairement, ils étaient comme des cons.
En gros, ouais.
Et je crois que, en fait, c'est le travail dont vous parliez tout à l'heure qui fait qu'on peut grandir. Et on a tous à le faire. C'est, je ne vais pas faire d'anglicisme, mais c'est pas, on dit work in progress, mais on pourrait dire c'est un travail de toute une vie. Et si ce n'est pas la pandémie, ce sera autre chose. Donc, ouais. Évidemment, ça nous touche tous et tout machin. Mais il y en a que quand on pourra aller dans les bars, et ben, ils trouveront que l'alcool il est trop cher. Enfin, il y aura toujours.
On est bien en France,
là. On aura toujours un truc. On aura toujours un truc.
Bernard Clazen, pour finir, on serait plus heureux si on était moins moi-jeux.
Ah oui. Oui, bien
au fond,
entendu.
Moi, je au sens tout de suite, maintenant, moi, mon intérêt, et le reste du monde m'en fiche, en fait.
Ouais,
et
bien
les
entendu,
autres.
Bien entendu. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le désir. Le désir, c'est pas moi, je. C'est un plus grand que moi, quoi.
Ouais.
Qui me fait être ce que je suis toujours en devenir. Et en effet, c'est pas de l'ordre de la conquête capricieuse. Les autres ont, donc je veux aussi. C'est une. Je me souviens d'un mec qui faisait de la mode, vous savez, qui avait une boucle d'oreille, là, qui est une queue de cheval, j'ai oublié son nom, qui est mort maintenant. Et un jour, je croyais que ce mec-là était un imbécile, enfin
ouais.
Bon, un mec qui faisait de la
un
mode.
Un vagabond, ouais.
Et un jour, dans une émission avec Pivot, je crois, il dit la personnalité commence quand la comparaison s'arrête.
Magnifique.
Ah, et c'est sublime.
Ah oui, c'est génial.
Sublime.
Et alors, tout d'un coup, je me suis.
Quand
ce
la
mec-là
comparaison s'arrête.
A pris beaucoup de hauteur dans mon esprit.
Comme quoi, et c'est quand même à vous que je vais le dire, l'habit ne fait pas le moine.
Exactement. Exactement.
J'applaudis parce que là, quand même. Mathias Malzieu, merci. Et votre livre, hein, Le guerrier de porcelaine chez Albin Michel, à retrouver dans les librairies. Et puis Bernard Clazen, à retrouver ici régulièrement et aussi à Boulogne. Et sans parler du Centre pour l'intelligence de la foi que vous dirigez, cher ami. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Merci.